En 2004, Canal nous dit voilà, c'est votre projet qu'on a retenu pour faire une série sur le journalisme. Ouais. Alors après, il y a du temps pour écrire la Bible, la peaufiner, se documenter, rencontrer des journalistes, etc., etc. Et on a vraiment commencé à travailler avec les auteurs, avec les trois autres auteurs de la première saison, en février-mars 2005.
D'accord.
On a été diffusé en 2007.
Ouais, mais pendant l'élection présidentielle en fait.
Oui, c'est ça. Donc on a été diffusé en 2007, donc on a commencé à vous dire ça 2 ans. Ouais. Enfin 2 ans, 3 ans quasiment à partir du moment où...
Alors comment est-ce que vous analysez le rapport justement à l'actualité sur la saison 1 comment est-ce que finalement c'était pas non plus une audace d'illustrer les problèmes moraux que vit la profession journalistique alors qu'avant justement vous le disiez pendant le débat c'était toujours plutôt un prétexte voilà
En fait quand on s'intéresse comme je l'ai fait et comme on l'a fait avec les auteurs aux problématiques globale de la profession journalistique, c'est-à-dire l'indépendance par rapport au pouvoir politique, l'indépendance par rapport à l'argent, je ne sais pas, j'ai plus tous les thèmes en tête, mais ce sont des thèmes qui sont des thèmes sur des cycles longs, ça ne se résout pas en 1 an, en 6 mois, etc. Donc vous avez toutes les chances, quand vous abordez des thèmes comme ça, d'avoir, pendant que vous écrivez, des échos à ces thèmes-là dans l'actualité. Ce qui fait qu'à certains moments, on avait étrangement l'impression que l'actualité illustrait ce qu'on était en train d'écrire. Et c'est arrivé plusieurs fois, notamment l'un des exemples les plus frappants. Malheureusement, là, ça n'illustre pas les problèmes de la presse, c'est autre chose, mais c'est la prise d'otage de Florence Omna qui intervient alors qu'on a déjà commencé à écrire l'histoire d'une prise d'otage. Bon, évidemment, je ne vous cache pas que 6 mois avant, il y avait Chesneau et Malbruno qui étaient pris en otage, donc ça a joué aussi comme déclencheur, mais... Il y a d'autres choses plus frappantes encore. Je réfléchis 2 secondes. À quel moment c'est arrivé ça? Il y a vraiment des moments où on se dit mais c'est pas possible.
La censure du JDD.
Non, la censure du JDD, c'est autre chose parce que c'est intervenu après la diffusion, si je ne me trompe pas. Ou juste, je ne sais plus.
C'était vraiment.
La censure de.
Enfin, de Cécilia Sarkozy.
Cécilia qui ne vote pas. Ouais. Il y avait un autre truc qui m'avait frappé particulièrement. Oui, c'est l'affaire Clearstream, tout simplement. L'affaire Clearstream, avec tout à coup un général à la retraite des services secrets qui garde des notes, qui fait penser un peu à notre personnage de Kaplan d'une certaine manière, même si c'est. Bon, enfin voilà, mais simplement, c'est vraiment drôle parce que là encore, sur cette série, cette deuxième saison qu'on est en train d'écrire, enfin pratiquement finie. Ces phénomènes-là sont arrivés, c'est-à-dire que par exemple là, PPDA remplacé par Laurence Ferrari, on a un truc dans la série qui rappelle un peu ça. Il y a autre chose, il y a des éléments comme ça qui sont en gros, le mécanisme est simple, c'est que nous on s'inspire de ce qui se passe, et donc on essaie d'inventer des choses, d'imaginer ce qui peut découler de ces situations de départ, et puis les situations de départ dont on s'est inspiré, elles courent leur chemin aussi, et puis elles finissent par nous rattraper parfois ou pas, enfin voilà. Donc c'est une série effectivement où il y a ce phénomène et ça, je dois dire que c'est assez motivant pour les auteurs tout à coup quand un matin vous vous réveillez et que vous lisez dans le journal une scène que vous avez l'impression d'avoir, enfin que vous avez écrite une semaine avant, ça donne envie de continuer. On a l'impression qu'on est validé, qu'on est tombé juste, c'est pas tombé juste au sens on devine, c'est juste qu'on se dit on est dans la bonne direction parce que l'ambiance, l'atmosphère, la logique, le dispositif, les mécanismes, j'emploie tous ces mots parce que ce sont des synonymes pour moi, les mécanismes, c'est très important, c'est ce que j'adore dans The Wire, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Reporter un petit peu, toute proportion gardée, hein, je ne compare pas du tout les deux, mais c'est ça, c'est d'essayer de mettre en scène, de raconter, au-delà de personnages qui doivent évidemment être forts, et ça, bon, voilà, c'est pas à moi de dire ce qu'il en est de Reporter, mais des mécanismes. De que ça serve à montrer comment les choses s'imbriquent et pourquoi, comme je disais tout à l'heure, comment et pourquoi une nouvelle arrive jusqu'à nous. C'est-à-dire, moi, quand je regardais il y a 5 ans encore, ou même un peu avant, les JT, où je dis je les regardais, en fait je les regardais pas, mais quand je lisais une première page de journal, je me rendais pas compte que j'avais l'impression que tout ça tombait du ciel un peu. Et je ne me rendais pas compte que l'information, ça se fabrique tout simplement. Ça se fabrique comme n'importe quel autre produit presque aujourd'hui. Et que comme n'importe quel autre produit, c'est soumis aux lois de l'offre et de la demande aussi. Et que de tout ça découle beaucoup des problèmes qui se posent aux journalistes aujourd'hui.
Est-ce que justement ce rapport à l'actualité, il peut... Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être du hasard. Et on a eu Scalp sur Canal+, qui est tombé en plein dans le mille. Est-ce que ça peut que se trouver que sur Canal+? J'ai l'impression qu'on a que des exemples sur Canal+.
Je sais pas. Alors, je me suis pas posé la question pour Scalp. Scalp me semble plus spectaculaire comme coïncidence, parce que c'est vraiment un truc énorme. Cela dit, c'est quoi la coïncidence? C'est qu'on a une série qui parle de la bourse alors que jamais aucune série n'en a parlé, et qu'on a un type qui explose une banque parce qu'il se livre à des détonnants. Mais il n'y a pas, si je ne me trompe pas, hein, je n'ai pas vu Scalp jusqu'au bout, il n'y a pas dans Scalp la situation même de Kerviel. D'ailleurs, elle n'y est tellement pas que, si je ne me trompe pas, ils ont obtenu de faire la deuxième saison en disant on va plus s'inspirer de ce genre de schéma-là. Ouais. Donc voilà, donc, qu'est-ce qu'on appelle correspondance à l'actualité? C'est-à-dire, dans le cas de Scalp, c'est une situation qui spectaculaire, qui frappe les gens dans un milieu précis dont on ne parlait pas avant la saison, et là on en parle. Donc du coup, effectivement, il y a un effet d'écho. Dans Reporter, il y a des situations plus précises. Donc, répondre à la question sur Canal, ça c'est vraiment un truc compliqué, parce que on n'a pas abordé ça dans tout ce débat, c'est trop vaste. Pourquoi je me suis pas intéressé à la fiction française, et pourquoi je m'intéresse toujours assez peu aujourd'hui, pendant toutes ces années dont je parlais là, cette espèce de parenthèse pendant que je faisais mes études et que je faisais la critique de cinéma, c'est qu'au fond la manière, l'image de les personnages, enfin l'image de la vie que ça m'a envoyé, ne m'intéressait pas. À partir du moment où il y a dans la fiction, où il y a quelque chose qui fonctionne, où il y a des personnages, des situations, des choses, bon, où on n'a pas l'impression qu'on a déjà deviné ce qui allait se passer avant que ça se passe, j'ai l'impression que on a plus l'impression d'être en phase, en connexion avec ce qui nous arrive, avec que ce soit sur un plan très privé, affectif, ou sur un plan plus citoyen. À partir du moment où une série vous donne l'impression que c'est connecté, vous allez voir, vous, des rapports avec la réalité aujourd'hui. Mais si vous avez une mauvaise série qui vous parle de drogue ou de je ne sais quoi, etc., ou de dealer ou de machin, et ben, vous n'allez pas faire le rapport avec ce qui se passe dans les journaux. Or, c'est la même chose, mais c'est juste que dans un cas, c'est raconté d'une manière qui vous frappe tellement pas que ça vous vient pas à l'esprit de faire un rapprochement. C'est-à-dire, pour le dire autrement, je pense que bon, il y a peut-être une forme de pertinence ou de regard qui s'affine au fur et à mesure et qui fait que du coup, on a l'impression que oui, les séries françaises commencent un peu à parler aux gens, je dis pas aux gens au sens que c'est un succès public, mais aux gens qui les regardent et qui les aiment.
Pour parler de la saison 2 de Reporter, là, oui. Est-ce que vous pouvez en parler déjà?
Ça dépend de la question.
Dans les thèmes abordés au moins? Est-ce que vous avez...
Les thèmes abordés...
Est-ce qu'on va garder l'histoire de la Vainaki avec la bombe nucléaire, enfin l'ogive nucléaire?
Bah tout ça c'est un peu résolu quand même. Ah, est-ce qu'on va retrouver l'ogive
nucléaire?
Ouais,
est-ce qu'il y aura ce type de...
Ah, il y aura ce type d'intrigue, oui.
D'accord.
Il y aura ce type d'intrigue.
International, donc.
Oui, absolument. Il y aura ce type d'intrigue internationale avec des échos, des rebonds en France. J'aime bien, je suis pas sûr que, voilà, je sais pas si ça correspondra à l'arrivée à ça, mais j'aime bien l'idée du battement d'aile du papillon, c'est-à-dire, voilà, il se passe quelque chose qui a priori n'a aucun rapport dans un pays, et puis au bout de 10 épisodes, on se rend compte que tiens, en fait, ça a eu des conséquences, ça a été connecté, cet événement. Comme le fameux caillou dans l'eau, à tout un cycle d'ondes qui fait qu'il y a des échos, bien sûr. Oui, dans ça, cette construction-là, pardon, reste, bien sûr, parce que j'espère que c'est ce qui fait l'une des spécificités de la série. Et on essaye même d'aller plus loin dans le feuilletonnant, c'est-à-dire qu'il y aura même plus de feuilletonnant que dans la première saison, c'est-à-dire qu'il y a un personnage, notamment, qui était sur des histoires bouclées, qui vivra... une histoire plus feuilletonnante, je ne vous dis pas lequel, mais...
D'accord, moi aussi, je pense que je devrais jouer. Juste une question la plus concrète, pourquoi des noms de pays fictifs?
Ah,
ça a agacé beaucoup de monde.
Ça a agacé beaucoup de monde, et Canal maintenant nous dit, attendez là, on ne va pas faire l'erreur, etc. Alors, c'est très étrange, moi, essayons d'être clair sur cette question. Je pense que la Vainaki a plus choqué que le Buranda, bizarrement. Mais peut-être pas vous.
Peut-être que les gens se sont dit aussi que le Burundi, c'était pas un pays, c'était un pays qui existait peut-être aussi.
Voilà, exactement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que en Afrique, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que en Afrique, tout le monde connaît pas le nom de tous les pays africains, et on peut se dire, après tout, c'est une sonorité qui me rappelle quelque chose, etc. Bon, la Wainaki, en plus, c'est moins faux que le Burundi, puisque comme je l'ai expliqué dans plusieurs entretiens, la Wainaki, c'est l'ancien nom d'une province qui était la Tchétchénie. Je ne sais plus à quel siècle, 16e siècle, je ne sais quoi, on parlait pas de Tchétchénie et d'Ingouchi, c'était une même ethnie et on les appelait les Wainaks. Donc on parlait de Wainaki. Bon, moi j'ai fait ça pour garder une sorte de. En me disant, voilà, pour des gens qui connaissent très bien, il y aura une résonance à quelque chose. Si je vous dis Transnistrie, vous connaissez le Transnistrie ?
Non.
C'est une province qui existe, vraiment. J'aurais mis Transnistrie dans la série, je pense qu'on m'aurait fait les mêmes remarques avec la Wainaki, sauf que ça existe. Bon, la Wainaki n'existe pas, n'existe plus. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? Pour une raison simple. À ma connaissance, il n'y a jamais eu en Tchétchénie d'enlèvement de journalistes et de meurtres de journalistes. C'est-à-dire qu'il y a eu des enlèvements de journalistes, mais ils n'ont pas été assassinés. Vraiment, vous abordez ce thème et vous racontez cette histoire-là et vous utilisez le vrai nom de la Tchétchénie, il y a quand même un problème moral qui se pose. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites que dans la guerre en Tchétchénie, les Tchétchènes ont enlevé et tué un journaliste alors que ça n'est jamais arrivé. C'est compliqué. On a beaucoup réfléchi à cette question. Et par exemple, dans la Maison Blanche, moi je me suis un peu basé là-dessus, dans West Wing, la plupart des noms sont des noms réels. Hein. Mais plus on se rapproche du cœur de l'intrigue de l'épisode, s'il y a un pays qui joue un rôle capital, qui lâche des bombes sur, ou qui tue des Américains, etc., ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a notamment un épisode, si je ne me trompe pas, sur le sida, sur les labos pharmaceutiques qui refusent de donner la trithérapie pour un tarif, etc. etc. Bref, il y a un dignitaire ou un président africain qui arrive et qui discute avec le président, qui d'ailleurs retournera dans son pays, on apprendra qu'il y a eu un coup d'état entre-temps et qu'il est mort, enfin, peu importe. Ce pays-là est un nom de pays fictif. Parce que c'est vraiment au cœur de l'intrigue. Et que s'ils avaient pris un vrai nom de pays, n'importe qui aurait pu dire « Mais attendez, ça n'existe pas, ce pays-là, il est parfaitement... c'est pas tout ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. » Donc, et pareil pour le Burundi, c'est inspiré de l'Angola Gate, mais on a rajouté des éléments, on a modifié des choses, on a fait une sorte de synthèse entre plusieurs affaires, et du coup, parler de l'Angola devenait faux. Donc, on a parié sur le fait que on était dans un monde de fiction et que mettre un nom ou un autre n'était pas le principal, que le principal, oui. C'était pas les noms qu'on mettait dessus, parce que sinon on pouvait nous reprocher aussi de ne pas appeler tel personnage Pierre Falcon ou ceci ou cela. Sauf que c'est pas exactement cette histoire-là qu'on raconte, c'est l'esprit qui compte et pas la lettre. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça, parce que ça nous semblait moralement plus juste. Je pense que si on avait appelé la Wainaki Tchétchénie, avec ce qu'on raconte dans la série, je pense qu'on aurait un certain nombre d'organisations, qui n'ont peut-être pas vu la série, mais je pense qu'on aurait pu avoir des organisations, des comités de soutien à la Tchétchénie, qui sont tout à fait légitimes et qui sont, voilà, qui auraient pu protester violemment, en disant que c'était absolument scandaleux de montrer les choses comme ça.
Et donc vous allez, pour en revenir au nom, vous allez aussi réutiliser des noms dans la saison 2
Là, je franchement, pour l'instant, on a gardé les vrais noms. Je ne sais pas si les pays concernés, voire les sociétés concernées, ça passera évidemment sous les fourches codines du service juridique de Canal+, je pense.
La Chine est en question
Non, pas la Chine, non.
D'accord, non, je sais pas.
Non, mais je n'en dirai pas plus. Enfin, je réfléchis, il n'y a pas un rebondissement en Chine. Non, il n'y a pas de rebondissement en Chine. Je ne devrais pas trop en dire quand même. Parce que, bon.
Donc, ouais, vous ne pouvez pas trop en parler de la saison
2. Non, c'est-à-dire
au moins de base, s'il y a un lancement d'intrigue.
Ah, j'ai vraiment. Non, ça, parce qu'il y a un vrai événement fort au début.
Où en sont les personnages? Est-ce qu'on reprend juste à la fin de la saison 1
Oui et non. C'est-à-dire, c'est une réponse de Normand, évidemment. On reprend... Non, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un nouveau personnage, voilà.
D'accord.
Okay. Un nouveau personnage principal. Mais grosso modo, on reprend... c'est une chronologie de fiction, je veux dire, la chronologie de reporter, si on se penche dessus, ça tient pas la route, mais comme la plupart des chronologies de série. Si on prend la situation du journal, on est quelques semaines, au maximum un ou deux mois après la première saison. C'est-à-dire qu'en gros, Florence se bat pour reprendre le journal, quoi.
D'accord, et on a toujours... Ouais, okay.
Mais dans la mesure où, dans les discussions avec Canal+, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas non plus envie de jouer complètement la carte du passage entre les deux séries, c'est-à-dire genre, il faut avoir vu la première série pour bien comprendre la deuxième, dans cette mesure-là, essayé de, à la fois d'être dans la continuité, mais pas non plus d'être trop spécifique.
Elsa ! Elsa !
Si je peux me permettre un conseil, te décide pas sur un coup de tête.
J'ai pas envie de servir d'alibi, c'est tout.
Prétexte. T'as la trouille, ouais.
Ça va, tu m'aurais pas comme ça.
Écoute, le plus important, c'est pas d'arriver à l'antenne, c'est d'y rester. Ou t'es à la hauteur ou tu l'es pas. Si tu l'es pas, black ou pas, tu sautes. Crois-moi.
La préparation, ce qu'on appelle la préparation, a commencé le 18 juin. Le tournage commence le 18 août. Voilà, il va durer, je sais pas exactement jusqu'à quand, mais enfin, il y a 10 épisodes cette fois-ci, ça vous le savez peut-être pas. Donc, la diffusion, si tout va bien, j'espère que je ne trahis pas des secrets de diffuseurs, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais à peu près 2 ans après la première saison, en mai 2009.
D'accord. Et vous, ça vous gêne d'attendre autant de temps
Moi, je trouve ça dommage d'attendre autant de temps entre deux saisons, mais comme j'en suis l'un des responsables de ce retard, enfin, c'est pas un retard, c'est simplement que comment faire pour ne pas mettre autant de temps entre deux saisons? C'est compliqué.
Faites beaucoup d'auteurs.
Pardon?
Beaucoup d'auteurs, il faut être.
Non, je pense pas, on est 6 cette fois-ci, et je pense pas que ça change grand-chose. Je suis même pas sûr que ça. Non, je pense pas que ça ait un rapport. On a travaillé avec un auteur, Alban Guitny, pendant plusieurs mois sur les arches narratives. On a fait une première proposition que Canal n'a pas gardée. Et on s'est mis au travail, donc on a passé en gros de février, mars jusqu'à septembre à travailler sur des arches narratives. On parle de 2007, voilà. On a écrit depuis les textes, ils ne sont pas encore terminés d'ailleurs, tout à fait. Donc si on ne veut pas avoir ce délai-là, parce qu'il faut bien voir qu'une série de 10 épisodes... C'est-à-dire que moi je crois, on n'arrête pas de dire les Français ne savent pas faire des saisons en un an, etc. Mais d'une part, si vous regardez... J'ai que cet exemple à l'esprit, je suis désolé, hein, tout le monde me le reproche, mais si vous regardez les diffusions de The Wire, vous avez, je crois, au minimum un an et demi entre deux saisons. Évidemment, il y a des saisons où il y a 2 ans et demi, parce qu'ils ont des épaisseurs de les reconduire, etc. Donc déjà, pour des séries type 10-13 épisodes HBO, je suis pas sûr qu'ils soient si rapides que ça. Mais d'autre part, évidemment, la grande différence, il faudrait se renseigner, je sais pas si vous le savez, je ne sais pas si The Wire tout est écrit avant le début du tournage, parce que c'est ça qui fait la différence.
Je pense les séries HBO en général, c'est tout est écrit
avant le début du tournage.
Par contre, c'est les networks, genre 24, ils ont que 2 ou 3 épisodes.
Voilà. Mais en l'occurrence là, ils ont 24 épisodes, ils en ont pas 13.
Voilà,
ça me semble énorme. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce degré.
Ou alors il doit leur rester 2-3 épisodes à écrire peut-être. Ça va être quelque chose comme ça.
Mais ça,
je crois qu'ils ont écrit déjà beaucoup.
Ça, ce serait possible, effectivement. Il faudrait voir, mais alors ça demande effectivement une maturité d'écriture, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure.
Ils ont une culture série de 40 ans aussi, peut-être.
Voilà, c'est ça. Et puis ils ont des auteurs qui sont des auteurs, je veux dire, voilà, moi je suis auteur depuis 4 ans. Bon, je fais des scénarios depuis bien plus longtemps que ça, mais je suis auteur depuis 4 ans, je fais ce que je peux, et on a très peu d'auteurs qui travaillent comme ça. Très rapidement, c'est très très compliqué, enfin je trouve, hein, de travailler sur une série de 10 épisodes feuilletonnante comme reporter, où, ça ne vous a peut-être pas échappé, au lieu d'avoir un décor dans lequel tous les personnages peuvent se rassembler, on a 2 décors, 2 rédactions, et à l'intérieur des 2 rédactions, on a des personnages qui font des qui sont dans des rubriques différentes. Donc comment réussir à construire une homogénéité et une unité dans tout ça, ça a été tout le défi de la première saison. Évidemment, vous avez bien remarqué que le journaliste d'un média et d'une rubrique couchait avec la journaliste d'un autre média et d'une autre rubrique, et que le deuxième journaliste de l'autre média avait une fille qui travaillait dans... Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de garder... Voilà, mais c'est très compliqué à tisser, à écrire, ça prend beaucoup de temps. Je doute pas que les Américains pourraient faire la même chose en mieux et en plus vite, mais nous, on a encore... on apprend. On apprend, et je pense que pour avoir une saison qui suit... je veux dire, une série des épisodes en France, en tout cas, On met quoi? On met 6 mois pour la... Attendez, on met, je sais plus, c'est 10 jours par épisode? C'est 12 jours par épisode, je sais plus. Donc ça fait... On a, grosso modo, on a eu, je crois, 2 fois 3 mois de tournage pour les 8. Donc on va avoir là 7 mois de tournage. Je réfléchis. Hein,
5 minutes par jour en enregistré.
Ouais, enfin je sais plus, ça doit...
C'est 10 jours avant.
Je pense qu'on va tourner jusqu'en janvier là. Donc imaginez, vous finissez une saison en mai. Vous voulez qu'en mai suivant, ce soit à l'antenne. Vous enlevez déjà, vous reculez, vous enlevez de mai 7 mois. Et vous arrivez à quel mois rétroactivement, mai-avril, avril-mars, mars-février, février-janvier, janvier-décembre, décembre-novembre, ouais. Et on arrive à octobre. Ce qui veut dire que le tournage pourrait être diffusé. Non, mais d'ailleurs, je dis tournage, mais il y a la post-synchro en plus. Enfin, la post-production. Là, on se met à tourner en gros, bah, je suis bête, on se met à tourner en août pour être diffusé en mai. Exactement 2 ans après la première saison. Donc si on voulait avoir été diffusé en mai 2008, on aurait dû commencer à tourner en août 2007, soit 3 mois après la diffusion de la première série. Mais Canal avait déjà commandé la suite. Donc on aurait pu se mettre au boulot sur la suite, disons, on sait bien, c'est en janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vous avez 8 mois pour écrire 10 épisodes. Ça doit être jouable. Mais il faut construire l'intrigue large. Hein. Donc voilà.